Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service des Séjours. Nous allons parler tout à l'heure des modalités à respecter avant de délocaliser les ménages au profit de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels, est notre invité. Le standard est déjà ouvert, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Patrick Kiasongo à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission.
Connaissez-vous la Mpox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de Mpox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la Mpox s'est faite à travers des lésions, voire plaies, des liquides organiques comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de Mpox et le rapport sexuel avec une personne malade de Mpox. Pour nous protéger contre la Mpox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouvés morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de Mpox et éviter tout contact avec les objets souillés par de malades de Mpox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151. Adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Bien. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons à présent parler des normes, des modalités à prendre en compte, à respecter avant de délocaliser les ménages au profit de l'exploitation minière. Eh bien, vous savez, les populations délocalisées des sites miniers devenus dangereux pour leur vie réclament souvent des justes compensations pour la perte de leurs propriétés comme les maisons et autres biens. Des cas des revendications sont souvent documentés dans les Katanga démembrés. Après plus d'une année de discussions sur les compensations financières, les habitants du village Kabumbwa, par exemple, ont reçu de l'administration publique entre 3 à 5 000 dollars. Et d'après une enquête journalistique, d'après une enquête journalistique réalisée en juin dernier, cette somme est insignifiante selon les habitants car ils ne peuvent pas se payer une maison ou construire une nouvelle maison construire des nouvelles maisons dans leur milieu de vie avec ce montant-là. Alors quelles sont les modalités à respecter avant de délocaliser les populations au profit de l'exploitation minière? Professeur Jean-Pierre Ndjibou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Vous avez suivi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, les habitants du village Kabumbwa, dans la province du Katanga démembré, ont reçu entre 3 à 5 000 dollars après la délocalisation, mais ils estiment que cet argent ne suffit pas pour leur permettre de construire des nouvelles habitations, etc. Alors dites-nous, quels sont les éléments à prendre en compte avant toute délocalisation des ménages au profit de l'exploitation minière?
Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, je n'ai pas d'éléments clairs, hein. J'ai appris aussi par le média et aussi par la société civile de ce qui se passe dans la province du Lualaba et pour l'indemnisation éventuellement, mais je n'ai pas pu avoir des informations exactes par rapport au montant. Non, mais qu'à cela retienne et que nous souhaiterions parler sur les étapes, je crois que la loi ou les textes, nos textes légaux de la RDC ont pratiquement tout prévu lorsqu'il faut faire une délocalisation de personnes qui sont sur le site considéré dangereux ou également parce qu'on a trouvé et qu'il y avait suffisamment de minerais et qu'il fallait délocaliser, mais il faut qu'il y ait un deuxième mot, hein, réinstaller, donc la délocalisation, la réinstallation. Donc éventuellement, mais on a l'impression généralement chez nous, on fait de la délocalisation tout simplement, mais ce qui est un peu bizarre. Alors, il faudrait effectivement, parce que et la première étape la plus importante, c'est de pouvoir mettre une commission en place et qui doit évaluer à combien coûterait le propriétaire, donc le propriétaire, le maison, le bien que la personne est censée perdre au moment où il doit céder l'endroit à une entreprise X ou Y. Alors cette évaluation demande qu'il y ait des experts de part et d'autre, donc ceux de société civile, des experts de foncier, des experts de l'entreprise elle-même concernée. Ce qui est important, c'est cette évaluation. Une fois on a évalué, je crois que le texte, l'annexe 18 de notre règlement minier définit très bien tout ce qu'il faut faire pour cette étape. Alors maintenant, lorsqu'on doit arriver à délocaliser une personne, il faut tenir compte de ce que ça coûte, parce que on les délocalise, c'est-à-dire on dépossède quelqu'un de son bien, mais alors il faut le lui donner. Soit vous lui donnez un site, une maison pareille que ce qu'il venait de perdre, ou également vous lui donnez un peu plus meilleur que ça, en tenant compte de la valeur ajoutée que vous deviez donner. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, et c'est qu'on constate, et c'est que les entreprises préfèrent se retirer, s'éloigner de leurs responsabilités, et on a des commissions comme on le voit là-bas, une commission d'évaluation provinciale et qui doit faire l'évaluation, où il y a des députés, où il y a le service de l'État, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, l'État devient juge parti. Et les gens qui sont dépossédés ne savent plus faire de recours. Et parce qu'au faire le recours, ils doivent aller chez l'État congolais, qui doit être, l'État doit accompagner la délocalisation, mais ne doit pas être partie prenante de la délocalisation. C'est l'entreprise qui doit se sentir responsable. Lorsque les gens se sentent lésés, comme dans les cas dont vous venez de parler, et que les gens se disent 3 000, 5 000, c'est rien du tout. Comment une maison qui, en moyenne, pour la construire, doit m'écouter 40 000 $, mais alors je détruis une maison et on me remet à 3 000, qui ne représente absolument rien. Je sais pas si c'est un kiosque qu'il faut construire, mais si c'est une maison, et ces gens, et l'entreprise va prendre la somme après évaluation avec l'État, donc cette anomalie qui existe un peu dans cette province, on va verser de l'argent dans cette commission. Alors si vous versez de l'argent dans une commission de l'État qui s'est fait juge parti, et c'est cette commission qui doit maintenant donner de l'argent aux concernés, l'entreprise ne sait plus rien. Donc vous pouvez dire, bon voilà, nous vous remettons 200 000 $ pour faire la compensation de ces personnes qui sont là, et donc ils vont agir en acte compensatoire certainement, mais sans oublier que dans cette somme, il y a 10% qui doit être réservé à la commission éventuellement, par rapport aux activités, aux travaux ou au paiement des agents qui vont travailler sur les terrains. Et c'est là le danger. Et le danger, c'est la déconsidération de l'humain et de la personne humaine qui devrait avoir de la valeur, de la considération vis-à-vis des entreprises sous la protection de l'État congolais. Malheureusement, c'est l'État congolais qui n'arrive pas à le protéger, d'où ces entreprises chinoises, australiennes ou d'autres. Donc, ça manque, ils suivent notre mode de vie.
Alors, professeur, j'imagine, avant de délocaliser, par exemple, la population, j'imagine peut-être qu'il y a des experts qui doivent descendre sur les terrains pour évaluer la valeur des biens, par exemple, d'un ménage avant toute délocalisation. Je ne sais pas si c'est toujours ça la procédure à suivre.
Exactement, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est prévu. Il faut qu'il y ait des techniciens, c'est ce que je venais de souligner, qu'il y ait des techniciens, qu'il y ait des experts qui doivent évaluer combien coûte, parce que le propriétaire, c'est aussi un humain, hein, il peut vous dire que ma maison coûte 5 000 $, en réalité, ce n'est pas 5 000 $, c'est 30, c'est 40, c'est 50. Donc il faut qu'il y ait des gens qui ont la capacité de faire les évaluations, des bons évaluateurs, des bons experts, capables de faire cela que ce soit au niveau de foncier, que ce soit au niveau d'architecture, que ce soit au niveau de matériaux qui ont été achetés, c'est un travail d'estimation assez exigeant. Et quelqu'un qui l'a fait à Bricador, ben c'est pas la même chose que celui qui l'a construit avec les briques cuites, c'est pas la même chose que celui qui a construit sa maison avec le briques à bloc ciment, et c'est pas la même chose aussi que quelqu'un qui l'a fait avec des briques de BTC. Donc les fonciers, les techniciens en architecture, les techniciens en construction, l'avocat ou donc la société civile qui doit accompagner, parce que doit suivre également comment les choses se passent, et l'avocat des entreprises éventuellement, l'avocat aussi de nos amis qui doivent, ou l'avocat conseil, et ça doit être suivi et jusqu'à ce qu'il y ait un accord, que l'évaluation soit acceptée des part et d'autre, que voilà, nous avons estimé que votre maison, et votre bien et votre ferme est évalué à 100 000 ou à 50 000 dollars. Et voilà, la personne vous dira, oui, bon, moi, le propriétaire, je l'ai acheté à autant avec son avocat conseil, donc et je l'ai conçu à autant. Et bien sûr qu'avec tout ce qu'on peut considérer comme... Et la durée, hein, et le fait que le bâtiment a fait autant d'années, tout ça, ça jouait également au niveau des estimations. Il faut que ces experts soient là, il faut que l'évaluation soit proposée, il faut que l'évaluation soit acceptée. C'est pas une imposition non plus, parce que vous n'allez pas imposer à quelqu'un qui a dû construire ou acheter une maison à 200 000 et vous lui dites nous avons évalué que c'est 5 000 dollars. Bon, c'est vraiment de l'insulte, parce que vous êtes conscient que les 5 000 dollars ne construit pas une maison telle que vous l'avez trouvée. Et voilà d'ailleurs une des causes, une des raisons fondamentales et qui fait que la plupart d'entreprises refusent de faire les directs, une collaboration directe avec les concernés et passe par l'État congolais, parce que ces entreprises, leurs responsabilités et ces délits laissent l'État à négocier avec ses habitants, le tromper, les intimider, voilà, donc utiliser tous les outils, le moyen utilisé au Congo. Qui ne respectent pas pratiquement les droits humains dans ce genre de choses. Donc c'est ça, c'est qui est très dangereux, et que et maintenant que ces gens, une fois vous leur dites que voilà votre maison c'est 5 mois, nous on vous paye 5 000, et où est-ce qu'il va encore aller demander, où est-ce qu'il va faire le recours, parce que l'interlocuteur ce n'est plus l'entreprise qui a la responsabilité, c'est les tenants du titre des sites miniers, qui des sites d'exploitation, qui doit être tenu responsable, mais malheureusement c'est une commission provinciale, c'est l'État congolais qui s'en occupe. Alors à ce moment-là, si les services publics s'en occupent, c'est là que les Congolais devraient aller se plaindre pour dire ça a été mal payé, ça a été sous-estimé, et voilà, vous en tant que nos gouvernants, nos responsable, est-ce que vous pouvez plaider pour nous? Est-ce que vous pouvez pas même plaider? Vous ne pouvez donner des injonctions qu'on améliore parce que ça a été sous-estimé. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas, parce que c'est là où vous devriez aller demander, réclamer. C'est là que les entreprises ont pu verser en fouillant leurs responsabilités. Et c'est un peu cette confusion qui fait souffrir énormément les Congolais dans ce genre de délocalisation. Alors, l'autre élément que je voulais ajouter, c'est lorsqu'on a fait une délocalisation, les entreprises se déresponsabilisent de gens qui doivent être délocalisés, parce qu'ils savent que s'il y a délocalisation, il faut qu'il y ait une réinstallation. Alors, la réinstallation coûte plus cher. Ils sont conscients que si eux-mêmes pouvaient construire, lorsqu'on arrive, on trouve un quartier on doit délocaliser et on doit construire un nouveau quartier avec le même bâtiment, par exemple, avec le même brique. Ils sont conscients, donc elles sont conscientes, ces entreprises, que ça coûterait plus cher que si elles débloquaient de l'argent. Alors, ils trouvent le moyen plus facile de débloquer cet argent et de donner au service de l'État en leur disant, prenez 10% pour le frais de fonctionnement, vos activités techniques, et puis occupez-vous de vos frères congolais. Mmh. Et voilà, et vous connaissez la relation d'un Congolais avec l'argent. C'est comme ça.
Eh bien, on va accueillir Ismaël Mumpoy de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
Bien, nous parlons de la délocalisation des ménages au profit de l'exploitation minière. Est-ce que vous avez des exemples? Vous avez des cas?
Oui, tel que je vis dans des milieux où les gens sont délocalisés, je vous dis que j'ai toujours des témoignages. Bon, j'avais voulu commencer par les propos émanant de la Constitution disant les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Je ne sais pas s'il peut y avoir la similitude entre l'article 30 de notre Constitution, que je cite en quelques mots. Tout Congolais a droit d'habiter partout où il veut, il peut se déplacer et revenir conformément à la loi du pays. Mais à force qu'une personne est déplacée, qu'il habite à un endroit dont la Constitution l'a signé comme responsabilité d'habiter. Mais si il s'agit d'être délogé pour une raison ou une autre, quelle est la part de responsabilité de l'État dans tout ça? Tenez. Nous avons du côté Kolwezi, la route qui mène vers Kapata, où vous voyez messieurs chinois avec Escomine qui délogeaient des personnes. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est la société elle-même. Si la population veut avoir quelque chose de bon par rapport à sa parcelle, à son champ, c'est si la société traite avec la population. La population touche quelque chose. Mais des fois, quand la société consulte un peu l'État, je pense que la population est dupée et tout ce qui pouvait revenir à la population, c'est l'État qui s'en approprie. Je pense que les avocats ou la loi du pays avaient exigé, avant d'acheter ou de payer une parcelle, il a fallu qu'on soit assisté par un avocat. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Tu as ta parcelle, tu as des notes, tout ça, tout ça. Mais si c'est une parcelle acquise de la bonne manière, signée par vendeur, acheteur et un avocat, je ne pense pas qu'il peut y avoir des problèmes. Mmh. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est l'État qui est censé de protéger cette même population, qui laisse la population à ses propres inquiétudes. Ou si l'État est consulté, la population en soi ne touche rien. Voyez, au terme de localisation, je pense quand on parle seulement en termes d'une maison, mais il a fallu aussi qu'on parle aussi en termes de la terre que la personne a payée. C'est par exemple à Kinshasa, comme ici à Lubumbashi, dans des grandes villes. Il y a des endroits pour payer une parcelle 30 sur 25, il faut dépenser 250 000 dollars, voire 150 voire 50 000 dollars. Mais si vous venez par exemple à un endroit où j'avais payé cher, vous voulez me délocaliser et que vous comptez seulement sur la maison dont j'ai construit. Nous avons aussi des arbres fruitiers de différentes sortes. Il a fallu qu'on mette tout ça en jeu.
Pourquoi cette personne est délocalisée? Qu'on évalue aussi la valeur des arbres.
Oui, oui. Il a fallu qu'on tienne compte de cela. Il y a des sociétés, s'ils viennent là, s'ils exploitent d'une bonne manière, et qu'il n'y a pas une main d'une autorité, d'un ministre quelconque, je pense que la société souvent tient compte de tout cela. C'est en valeur de tout ça. La terre, la maison, les arbres, les consommateurs. Mais maintenant, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est contraire. Même l'État lui-même, là, voyez, du côté de Pemba Mujmai, nous avons suivi ici la radio Okapi. L'État lui-même ne sait pas délocaliser les gens et les indemniser comme il se doit. Mais combien plus forte raison à une personne qui ne connaisse même pas et la loi du pays et la conseil qu'elle dit la constitution peut faire? Je pense que ces genre de personnes doivent être assistées par l'État envie de dissiper les malentendus.
Merci,
ou
Ismaël.
Envie de dissiper un peu la tromperie de la population. Merci beaucoup.
D'accord. Donc, ils préconisent que ces personnes soient assistées par les avocats pour qu'ils reçoivent quelque chose de consistant qui va leur permettre de s'acheter ou de construire les maisons ailleurs. Professeur Jean-Pierre, à vous la parole.
Oui, merci. Je suis d'accord avec l'intervention de notre ami hein, qui vient de donner ses arguments. Mmh. Alors, je voulais juste souligner l'élément important, c'est que la plupart des personnes qui ont de maisons, il y a toujours la présence aussi des avocats conseils hein, et qui sont là et pour accompagner cette population à délocaliser. Mais malheureusement, et derrière ou en face d'eux, vous avez un lobbying, un grand lobbying de ceux qui ont de moyens et ceux qui ont le pouvoir. Donc ça signifie qu'il y a deux camps qui se dressent. Vous avez un camp de la population qui va être délocalisée, qui est faible, qui n'est pas protégé ni par l'État, ni par quoi que ce soit, bien que ça puisse avoir à côté un accompagnement des sociétés civiles ou des avocats conseils. Et de l'autre côté, vous avez les entreprises minières qui ont de moyens économiques, qui ont la finance, hein, qui ont ces entreprises ont l'argent, et vous avez l'État qui a le pouvoir, et qui a le loi, qui a des justices, et ils font un camp. Donc vous avez deux camps différemment, de faibles et de forts. Alors, lorsque vous êtes dans une situation pareille, les faibles sont complètement. Et c'est à ce moment-là que je reviens à ce qu'il dit, on va vous dire, bon, le sol, le sous-sol appartient à l'État. Ce sont des arguments qu'on prend, hein, et que c'est quand même très, très amusant. J'ai appris récemment, vous voyez, j'ouvre la parenthèse, peut-être je fais un peu, et j'entends, je sais pas si c'est vrai, on dit qu'on doit commencer à mettre des compteurs à ceux qui ont d'eau et qui ont tiré d'eau avec des citernes, avec des puits dans des parcelles, parce que c'était manque à gagner à l'État. Mais l'État ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fait pour donner de l'eau à cette population qui a fini de trouver ce moyen. Parce que les gens utilisent toujours cet argument, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, ça veut dire que les hommes ne sont pas appartiennent, les habitants du Congo n'appartiennent pas à l'État. Parce que c'est eux qui sont rançonnés. Donc, je ferme la parenthèse, et c'est cela le danger, parce que si nous pouvons protéger, nous pouvons arriver à protéger le faible, c'est la loi qui doit être forte, ce sont le texte. Et alors, si ceux qui ont la loi, qui ont le pouvoir, doivent se mettre à côté de ceux qui ont de moyens, et qui sont généralement les étrangers, alors ils finissent toujours par écraser les nationaux, les patriotes, qui sont faibles, qui sont pauvres, même certains qui ont le moyen, parce qu'ils doivent le faire. Et notre ami a dit que lorsque c'est un contact, j'ai connu ça à un certain moment, mais lorsque c'est un contact direct entre les entreprises et le concerné, hein, au début, quand certaines entreprises s'installaient vers les années 2000, 2004, 2000. Et voilà, c'était très intéressant. Les choses s'arrangeaient de cette manière et les gens pouvaient vraiment avoir ce qu'ils devaient avoir en fonction de la valeur de ce qu'ils ont perdu. Mais malheureusement, maintenant, quand on apprend qu'il y a de l'argent, tout le monde se mêle.
Et les choses,
le pauvre devient victime. Et voilà, on met des commissions qu'on considère commissions où il doit y avoir des évaluateurs, ça peut être des députés, des services de l'État, le genre de tel service, et le foncier, bien sûr, des cadastres, c'est ceux qui vont évaluer, et puis ce service qui va maintenant délocaliser, qui va donner le moyen, et ces services qui reçoivent de l'argent de l'entreprise, qui va garder dans cet argent reçu descend donc 10% Donc, et ces services, cette commission d'évaluation va elle-même essayer d'évaluer combien payer aux gens, si les personnes sont très nombreuses, et voir qu'est-ce qu'il faut, s'il y a des amis qu'il faut, voilà. Donc, c'est toute une confusion. C'est vraiment un ensemble de salades, c'est compliqué à comprendre, mais malheureusement, les faibles sont victimes.
Et voilà. Voilà, un ensemble de salades, les faibles sont victimes. Et voilà. Maintenant, vous avez dit l'État congolais lui-même est juge et parti. Et dans ce cas, maintenant, qui pourra défendre toutes ces personnes qui sont délocalisés, qui perdent leur maison et après on leur donne quelque chose d'insignifiant qui ne leur permet même pas de construire une nouvelle maison.
Oui, à ce moment-là, la population devient très faible. Il n'y a pas, parce que le juge est là et le juge est devenu partie prenante. Alors, où est-ce qu'on peut encore aller? Donc, et ça doit être l'année passée, je crois en 2023, que j'avais entendu un ministre dans la province du Walaba qui souhaitait vraiment que cette commission disparaisse et qu'on puisse laisser tel que la réglementation ou le règlement minier prévoit ce genre de choses. Bon, malheureusement, ça, le problème, c'est le fond, c'est l'argent.
Oui.
Parce que mieux vaut donner l'argent à une commission et nous savons gérer. Et généralement, ce sont des gens, ils montrent aux entreprises que nous savons bien gérer nos frères congolais. Bon, voilà. Alors pour une famille, une personne qui n'a jamais reçu 2000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars, du coup, première chose, il va d'abord prendre. Hein, même s'il n'est pas d'accord, mais il va d'abord prendre et il va se dire, bon, et maintenant que je me plains, maintenant que c'est insuffisant, qu'est-ce que je fais? Et c'est pourquoi vous voyez que les sociétés civiles, les ONG, les journalistes d'investigation finissent par essayer de parler pour que le média et peut-être acquis de droit, l'autorité comprenne qu'il y a des choses qui se font en ce qui concerne l'indemnisation, et tout ce qui est les actes compensatoires pour des gens délocalisés. Et il y a une catégorie des Congolais qui souffrent et qu'ils prennent des décisions adéquates à ce niveau-là.
Oui. Alors, vous avez parlé de la loi minière. Qu'est-ce qu'elle prévoit concrètement pour les cas de délocalisation? Qu'est-ce qui est prévu concrètement par la loi?
Et il est évident de voir que le règlement minier est à tout, donc, en annexe 18, à tout préciser. C'est-à-dire, lorsqu'on délocalise, il faut arriver à identifier réellement, à évaluer, c'est une très bonne évaluation à faire, et qu'il faut, à ce qui concerne le bâtiment, le ferme ou usine ou une maison, tout ce qui a été comme propriété qui a existé, ça doit être bien évalué avec des experts qu'il faut. Et la loi permet également, c'est pourquoi on parle de la délocalisation et de réinstallation. Donc, il y a moyen de pouvoir réinstaller les personnes. Et je crois que c'est sur cet aspect qu'on devrait peut-être beaucoup plus jouer. Lorsqu'on délocalise les personnes, avant de pouvoir les délocaliser, on a dû évaluer et on leur construit des types de maisons adaptées à cela. Donc, lorsqu'on les délocalise et on remet chacun dans sa maison, ça serait un plus que l'État congolais gagnerait, et parce que ce serait peut-être une des maisons avec l'État qui oblige des normes bien définies et que ce soit une très belle cité pour ces gens qui ont été délocalisés et ainsi de suite. Donc, ça serait quand même très agréable que de pouvoir faire partie des gens pratiquement de cette manière-là et le laisser errant et en train d'être presque mendiant alors qu'ils avaient un endroit pour se reposer.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans cette émission des modalités à respecter avant toute délocalisation des populations au profit de l'exploitation minière. Des questions et préoccupations, eh bien, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Quelles sont les modalités à respecter avant toute délocalisation des ménages au profit de l'exploitation minière? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas d'appeler pour participer à cette émission. Raphaël Decoloisi nous a écrit en disant « Au quartier Louilou, l'État congolais a vendu la carrière aux Chinois sans prévenir la population et les creuseurs se sont transformés en bandits. » Voilà. C'est une situation déplorable qui est arrivée là-bas au quartier Loulou. J'imagine que certaines personnes ont aussi perdu leur maison parce que la carrière a été vendue et puis bon voilà, et après il n'y a pas eu d'indemnisation et les gens se sont transformés en bandits. Voilà, professeur, votre réaction, professeur Jean-Pierre Ndjibou, votre réaction par rapport à cela?
C'est évident que les gens cherchent, hein, ils cherchent comment vivre, et la vie c'est vraiment un défi. Donc, lorsque les personnes qui avaient les possibilités d'avoir leur propre, pas leur propre, mais dans l'endroit où ils pouvaient aller chercher des minerais et vendre pour vivre, disons pas que bon, ils le faisaient de manière peut-être en allant frauder ou voilà. Alors une fois c'est vendu, c'est que ce sont des milliers de personnes qu'on prive du boulot, qu'on prive la nourriture. Parmi ils sont mariés, ils ont des enfants, et alors ils doivent s'adapter. La nature c'est comme ça, donc on veut s'adapter, et en voulant s'adapter, chacun trouve le moyen qui lui semble beaucoup plus efficace. Je dis pas que c'est bon, mais généralement c'est du côté insécurité que cela se déploie, parce que les gens doivent tenir, doivent vivre. Alors ça serait intéressant, comme on le disait, et de pouvoir formaliser pratiquement tout ce qui est de site d'exploitation artisanale, et d'arriver à donner, on parle de coopératives, de certaines coopératives à Colosi, dans le Lois là-bas, et ici aussi dans le Katanga. Donc je crois que si on formalisait et on permet que ces sites d'exploitation, ces zones d'exploitation artisanale deviennent des zones pour certaines personnes, tout simplement, ces creuseurs ici qui sont congolais, qui ont besoin de pouvoir aussi exploiter leurs richesses pour ça, mais avec qu'on puisse formaliser, qu'on puisse mettre des textes, qu'on puisse mettre des lois, qu'ils aient de taxes à payer, qu'ils sachent, qu'ils aient une chaîne de traçabilité de leurs activités bien claire et bien organisée, avec une structure organisée. Je crois qu'on permettrait à ce que cette masse de la jeunesse qui manque du boulot, qui finit les études mais qui n'a pas du travail, et puisse trouver le moyen de tenir, que de basculer dans le des zones dans le banditisme, dans l'insécurité. Je crois que ça ce sont parfois des actes d'impréparation et qui font que nous, et tout ça, je dis que c'est lié au fait que nous avons une forte déconsidération d'un patriote, d'un humain congolais. Parce que si nous savons qu'il y a des compatriotes qui vivent, qui sont dans telle exploitation, même si nous voyons les intérêts derrière et autant d'argent, mais nous devons réfléchir comment mettre ces personnes dans une structure, parce que elles sont censées vivre, elles sont censées aussi faire étudier leurs enfants et se faire soigner. Et donc, alors, éloigner ces personnes, c'est accepter des milliers et des milliers de personnes qui doivent mourir de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité sanitaire parce qu'ils n'auront pas de moyens de se faire soigner. Alors, parce que ces personnes voudront coûte que coûte tenir à la vie et ne pas disparaître, elles vont trouver le moyen le plus facile et c'est dans ce moyen, dans cette zone d'insécurité. Mmh. Je crois que c'est un élément qu'il faut... Donc, on doit tenir compte de cela pour essayer d'organiser ces systèmes, formaliser les systèmes d'exploitation artisanale dans le mine.
Bien, on va accueillir Maître Christophe qui nous appelle de Kolwezi. Merci de nous écouter à Kolwezi à Lisano. Vous êtes à Dilala, Manika. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Maître Christophe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour, merci. Nous saluons également notre invité. Et en fait, les problèmes de la délocalisation et les problèmes de l'exploitation artisanale, c'est un problème très vivant ici à Kolwezi. Moi, je suis à Kolwezi depuis 2000, j'ai fait les pierres, je sais ce qui s'y passe. Alors, l'absence des zones d'exploitation artisanale est à la base de beaucoup de problèmes ici à Kolwezi. Vous allez vous rendre compte qu'une délégation quitte Kinshasa, descend à Kolwezi, ils ont déjà tracé les carrés miniers sans au préalable venir à Kolwezi. La ville est en train d'éclater, c'est ce qui fait que les gens aussitôt lotis, vous vous rendez compte qu'ils se retrouvent dans une zone d'exploitation appartenant à une entreprise Kinshasa avait déjà confiée à l'insu même des autochtones.
Oui.
Ici. C'est ce qui fait que ça pose plus de problèmes. Et donc, pour trouver la solution, à mon avis, je pense, avant que Kin ne cède une zone d'exploitation minière aux investisseurs, il doit y avoir une commission qui doit descendre à Kolwezi pour voir est-ce qu'il y a l'espace ou pas. Et puis, la forme d'exploitation artisanale telle que prévue par les codes miniers, mais à Kolwezi, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de ZEA. Les zones d'exploitation artisanale sont absentes à Kolwezi. Les creuseurs, les exploitants artisanaux vont travailler où? Je vous donne un exemple patent. Le président de la République est venu, n'est-ce pas, inaugurer le centre de négoce. C'est un centre conçu pour que les artisanaux viennent faire, n'est-ce pas, la vente de leurs produits qu'ils exploitent. Mais ils vont prendre les produits dans quelle zone? Il n'y a même pas une ZEA à Kolwezi. Les artisanaux qui sont concentrés ici, soit ils vont voler chez Mutanda, soit ils volent dans la concession TFM, soit ils volent chez KCC. Le propriétaire de la concession dit que fini avec les artisanaux, quittez, nous enregistrons les cas de mort d'hommes, il y a des casses, etc. Que donc,
Maître Christophe,
Monsieur Jody.
Oui, lorsque voilà, les gens se réveillent un matin, on vient vous annoncer que vous devez partir parce que la concession de cet espace est déjà vendue. Alors comment ça se fait pour par rapport à je vais dire l'indemnisation? Comment ça se passe généralement là-bas?
Par rapport à ce qui est prévu par la loi, les codes miniers. Et ce que nous vivons sur les champs, il y a beaucoup de problèmes. Imaginez-vous, je vous donne un cas. Moi, j'ai un membre de la famille qui avait sa maison à la cité Jekamine Kolwezi, ici, juste à côté. Monsieur Jody, vous êtes déjà arrivé à Kolwezi, je vous connais. Juste à côté du centre-ville. Il a 40 ans là-bas, et quand les Chinois viennent, on lui propose un montant dérisoire. Je ne vais pas citer, nous sommes sur le plateau, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mmh. Mais vous sentez que les gens présentent des résistances. Quand vous essayez de parler avec eux, non, ils ont raison. Écoutez, j'ai 40 ans ici, j'ai une maison, à part ce que j'avais acheté chez Camine, j'ai construit une annexe, etc. On me propose tel montant. Et vous dites, non, je préfère mourir. Et vous trouverez, par exemple, sur l'avenue de la mine, ici, à la cité Camine Kolwezi, celui qui était du côté... donc, l'avenue au milieu, de l'autre côté, une route de 15 mètres, on les a déjà délocalisés, et en face, les gens y vivent. Donc, la limite entre la concession commise et là où il y a des gens, 10 mètres, c'est trop. Donc, les 10 mètres qui séparent la zone
d'exploitation.
La zone minière des commises, et là où il y a des habitations. Tout ça, c'est parce que les principes liés à la délocalisation n'ont pas été mis en compte quand Comis a procédé à cette opération là-bas.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Christophe de Colosi, pour ces témoignages. Professeur Jean-Pierre Djibou, votre réaction?
Oui, son témoignage, c'est exactement tout ce qui se passe dans les zones minières, dans l'ensemble de la RDC, et c'est non-accompagnement, c'est tout ce que nous disons, non-accompagnement de ces jeunes qui soient capables, qui sont dans le mine, dans l'exploitation artisanale, mais qui sont complètement délaissés, et c'est l'absence de la formalisation, je crois, c'est l'absence de la formalisation de ces zones d'exploitation artisanale et par l'État congolais, c'est un des outils le plus important qui a été même discuté et trouvé au niveau de CIRGL, donc pour permettre d'éviter l'exploitation illicite de minerais. Mais malheureusement, cet aspect des pouvoirs formalisés, on ne le compte pas. Alors, il est aussi dangereux de constater qu'on puisse continuer à exploiter et à exploiter. Je donne un exemple. Les États-Unis est un pays, il est premier producteur de tout, presque de tout. Il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a de pétrole, il y a tout ce qu'il faut. Mais les États-Unis n'exploitent pas ces minéraux parce que les États-Unis gardent pour faire l'exploitation pour des générations futures.
Ils font des réserves.
Mais ils préfèrent aller chercher dans le monde. Bien qu'il y ait des guerres partout, mais ils cherchent dans le monde. Mais nous sommes dans un pays où à l'époque on avait la Gécamines, à elle seule, et tout marchait, l'économie du pays fonctionnait. Mais aujourd'hui, on a remis à des milliers et milliers d'entreprises, on a tout vendu, on a une culture de tout vendre, et de ne rien laisser, on ne pense même pas que plus tard, que vont devenir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières, petits-enfants, arrières. Non, ça, nous n'en avons pas besoin. Alors, on continue à vendre. Alors, généralement, la plupart, ce sont des minéraux à ciel, donc l'exploitation minière à ciel ouvert. Donc, ce qui veut dire, on continue à avoir de trous, on continue à modifier le changement, donc à participer, à contribuer de manière très grave sur la production des gaz à effet de serre, sur le réchauffement, le changement climatique chez nous, avec tous les risques possibles que nous commençons à ressentir maintenant. Mais malheureusement, il n'y a rien d'anticipé. J'entends quelqu'un la fois passée qui dit non, et les entreprises doivent continuer maintenant à payer le taxe carbone parce qu'ils produisent des gaz à effet de serre. Mais le gouvernement qui va prendre une décision n'a jamais évalué quelle est la quantité des gaz à effet de serre que chaque entreprise produit. Parce que si vous faites l'inventaire des gaz à effet de serre pour chaque entreprise, vous êtes censé déterminer et quel est le montant que cette entreprise doit payer. Vous n'allez pas faire payer celle qui produit moins à celle qui produit plus. Et il faut évaluer. Mais ça, nous ne savons pas le faire. Mais nous voyons vite l'argent. Donc, il dit taxe carbone, on va mettre taxe carbone. Et c'est ça le vrai problème. Nous avons un rapport assez complexe et avec l'argent, et qui fait que nous perdons notre propre dignité et nous avons, comme disait un écrivain sur le Congolais, que nous avions notre mémoire, notre intelligence est pratiquement polluée. Donc nous devons arriver à réfléchir sur l'avenir des générations. Comment pouvons-nous tout vendre au loin là-bas? Tout vendre au Katanga, tout vendre à l'est de la RDC. Quel est l'objectif? Mais depuis que nous avons autant d'entreprises, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que jusque-là, les gens continuent à être impayés, les gens réclament, il y a ceux qui sont dans des grèves, il y a ceux qui sont... Voilà, donc tout ceci montre que ces entreprises ne nous apportent pratiquement rien, ou alors elles l'apportent et cela finit dans des caisses qui ne sont pas des caisses de l'État. Alors, c'est ça le vrai problème. Alors, si nous faisons, à un certain moment, on doit s'arrêter pour dire, évaluons d'abord ce que nous avons gagné avec ces entreprises, je crois qu'on trouverait des solutions pour anticiper et faire. Et c'est ça, ce qu'on appelle le développement durable, c'est de penser à des générations futures. Et nous, ça devient juste des slogans, génération de développement durable, et nous sommes pays solution, on en fait... voilà, et ça, ce sont des slogans, mais qui n'ont rien à faire avec la réalité. Il faut qu'on soit dans une logique de savoir... Comment sommes-nous réellement solution? Est-ce que ce que nous faisons, nous sommes solution pour nous-mêmes, pour nos vrais problèmes et d'environnement et sur place? Est-ce que nous sommes en train de penser à des générations qui viennent? Et de quelle manière nous pensons à ces générations? Est-ce que nous anticipons qu'un jour, ils auront besoin de ces minéraux? Et nous allons avoir besoin de ces minéraux-là et à léguer à nos enfants. Alors, tout cela nous pousse à pouvoir vraiment anticiper et réfléchir. Mais malheureusement, notre rapport avec l'argent, il est très très difficile et nous sommes obligés de laisser les pauvres souffrir, délocaliser quelqu'un sans réinstaller quelqu'un. C'est très délicat, c'est très délicat. Donc ces gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une maison, si vous voulez le délocaliser, donnez-lui une autre maison. Mais malheureusement, nous sommes dans une zone minière. Ou lorsque vous allez les délocaliser, et plus tard, parce que tous les grands Katanga et la République, on a autant de carrés miniers. Et on vous dit que non, ceux qui exploitent le minerai ont plus de droits que sur que ceux qui font de forêt ou ceux qui sont habités. Donc s'ils trouvent dans cette rivière qu'il y a du minerai, on va vous interdire de pouvoir puiser l'eau dans cette rivière. Oui. Et si on trouve que encore là vous l'avez délocalisé, il y a encore du minerai, on viendra encore délocaliser, redélocaliser. Ah, oui. Et c'est cela la et grande difficulté. Qu'est-ce qu'on planifie? Voilà. Qu'est-ce qu'on planifie? Il n'y a pas de planification pour toutes les activités que nous faisons. Il y a plus une planification d'argent en disant si nous vendons ceci, combien nous aurons? Si nous vendons cela, combien nous aurons? Alors, on planifie ce qu'on doit avoir comme argent, mais on ne planifie pas l'espace par rapport aux compatriotes et en leur disant qu'ils ont droit de rester chez eux. Et on mettra en avance, comme disait notre ami, la terre, le sous-sol, le sol appartient à l'État congolais. Donc, vous êtes des petits animaux qui circulent dans ces pays. On n'a même pas besoin de vous.
Voilà. Bien, on va donner la parole à Maître Marc Igalo de Kinshasa. Nous parlons des modalités à respecter avant toute délocalisation des ménages au profit de l'exploitation minière. Maître Marc Igalo, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Merci, Monsieur Jody. Tout en faisant mienne les interventions pertinentes du professeur, je tiens seulement à rappeler que, selon l'article 34 de notre loi fondamentale constitution, la propriété privée est sacrée. L'État a le devoir de la garantir conformément à la loi. Et quand je parle de la loi, je fais allusion aux trois textes. La loi du 20 juillet 73 sur le régime foncier congolais, la loi de 2002 telle qu'est révisée sur le code minier, ainsi que les règlements miniers. Le professeur a raison, la propriété. Mais l'article 53 de la loi qu'on appelle la loi foncière dit « Les sols est la partie exclusive et la propriété exclusive de l'État. Nous ne sommes que des jouisseurs sur le plan foncier. » Mais il y a des propriétés publiques. La loi permet à l'État, qui est propriétaire exclusif du sol, de délocaliser quelqu'un. Mais cela a trois conditions essentielles. La première, elle doit être faite pour l'intérêt public. On ne peut pas décoloniser ou exproprier pour un intérêt mesquin des Chinois ou des Indiens. On doit démontrer l'intérêt général, parce que l'intérêt général est la loi suprême dans un État. Ça, c'est la première condition. Nous voulons exploiter pour les trésors publics ainsi pour le profit des communautés locales. Deux, il doit y avoir une évaluation technique experte, tenant compte des paramètres de la localisation. Et enfin, il faut indemniser après avoir évalué à la hauteur du bien qui a été délocalisé. Malheureusement, ces trois conditions ne sont pas reprises. Voilà pourquoi même à l'époque, les exploitants miniers ont été très énervés contre le président Kabila, parce que la dernière réforme a apporté des innovations majeures. Premièrement, lorsqu'on exploite les mines, l'on doit d'abord le faire au profit des communautés locales. Deuxième impératif, on doit respecter les normes environnementales. Et on avait même haussé la taxe. Voilà pourquoi beaucoup d'exploitants miniers ont été énervés par rapport à cette réforme. Le professeur a raison, il faut protéger la propriété privée. L'État qui a les droits d'exproprier doit le faire si et seulement si l'exploitation minière pour laquelle on veut délocaliser représente un intérêt majeur pour la société et pour la communauté locale. Deux, il faut qu'il y ait une évaluation et enfin, il faut indemniser à la hauteur du bien qu'on a délocalisé. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, en tout cas on est dans une jungle et on doit dénoncer de telles choses car dans un état de droit, la propriété privée est sacrée.
Bien, merci beaucoup Maître Omar. Professeur Jean-Pierre Djibou, à vous la parole et on va terminer par là.
Non, je remercie le maître pour ce complément est très important sur le texte qui démontre clairement que les trois conditions non réunies, effectivement, nous ne savons pas indemniser le gens de manière correcte et tout ce que nous faisons, c'est pratiquement de l'anarchie, de la confusion et nous pensons que c'est beaucoup mieux que tel que il a précisé les trois éléments, c'est la force de pouvoir faire oui, mais pour l'intérêt public, mais il faut l'évaluation, et pour évaluer, il faut qu'il y ait autant d'experts qui doivent évaluer la propriété des compatriotes, de personnes qui sont concernées, et puis indemniser en fonction de ce que ça se respecte la propriété de personnes, la valeur de ce que de personnes, et qui est cette collaboration, ce consentement entre le parti prenante, et parce que déjà le premier ils finissent par consentir, hein, quand les gens disent oui, nous acceptons l'acte compensatoire, ben ils finissent. Et quand ils acceptent, maintenant, il faut respecter les procédures, et ces trois procédures sont pratiquement nécessaires. Et lorsqu'il s'agit des biens publics, une évaluation, et cette évaluation doit tenir compte, donc la compensation doit tenir compte de la valeur de propriété de la personne qui doit être indemnisée.
Bien, professeur Jean-Pierre Djibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels, merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Patrick Kiasongwa était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.